Vous savez, la semaine dernière, on a reçu celui que j'appelle affectueusement l'entraîneur des entraîneurs du Québec. Son nom est Jean-François Mouton. Puis, on avait fait un constat du hockey mineur québécois. D'ailleurs, il est assis devant moi. Il est venu en studio avec nous aujourd'hui. Bon, bonjour, M. Mouton.
Bonjour, Jean-Philippe.
La semaine dernière, quand vous étiez en onde avec nous, on a fait le constat que finalement, le hockey mineur québécois n'allait pas si mal que ça. Tu sais qu'il fallait être un peu plus précis quand on fait un constat d'échec du hockey mineur québécois.
D'échec ou de réussite, évidemment. Ouais. Et on pourra revenir la semaine dernière. C'était évidemment de voir quel hockey qu'on parle au Québec. Puis c'est là qu'on a fait le tour des différents contextes, des initiations. C'est le hockey mineur simple lettre, le double lettre, la Ligue de hockey d'excellence, le RSEQ, la Ligue Midget 3A, M18 3A, la Ligue junior majeure du Québec. Fait que si on a apporté un jugement avec les forces et les défis de chacun de ces environnements-là, ben il faut voir de quoi on parle quand on parle de hockey au Québec. Fait que c'est plus ça que je lançais comme message. C'est vraiment quand on a l'occasion de préciser des choses sur le hockey au Québec, de quel hockey on parle, et puis là, on sera en mesure de mieux cerner les objectifs de chacun de ces environnements-là, ainsi que les actions qui sont propices à maximiser l'expérience des joueurs et des joueuses au Québec. C'est un peu ça le message que je voulais vous lancer.
Et je pense que votre message a été très bien entendu la semaine dernière, et au terme de l'entrevue qu'on a faite ensemble, on s'est dit pourquoi pourquoi je vous relance pas l'invitation, mais pour nous parler d'un tout autre sujet. Et un sujet qui vous passionne, qui vous a fasciné tôt en enfance. Où étiez-vous dans votre parcours scolaire en 1972?
Bon, c'était plus l'adolescence. Bien qu'enfant, j'étais partisan invétéré du Canadien, évidemment. Mais oui, c'était en secondaire 5 à l'école secondaire Gérard Filion. Je rentrais donc en septembre 72, en secondaire 5 à 17 ans. Et c'était à l'aube de la première confrontation internationale Canada-Union soviétique. Et c'était donc à l'aube de la série du siècle.
Et j'ai l'impression que les gens au Québec prenaient tous pour la feuille d'érable. Tout le monde prenait pour l'équipe canadienne, sauf un, vous.
Sauf un, il y en a peut-être qui nous écoute, je sais pas, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, on n'était pas nombreux à pencher vers l'équipe soviétique. Pourquoi? Parce qu'à 17 ans, j'attendais les journalistes, j'attendais les spécialistes de hockey de l'époque qui disaient, tout le monde le sait, que le Canada était pour remporter les 8 parties, puis que c'était War in the Park. Puis à un moment donné, à 17 ans, tu fais comme, ben voyons donc, ça marche pas, pourquoi? Ils sont tellement condescendants que finalement, je suis probablement tombé dans le syndrome du underdog, puis j'ai dit, ben, moi, je vais prendre les Russes, tout simplement. Et puis, évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Dès le premier match, 2-0 Canada après quelques minutes. Et là, ben, finalement, c'est un virement de situation. Et puis, c'est de l'histoire maintenant. Mais à partir de là, oui, j'ai comme eu un intérêt à suivre ces joueurs-là, à mieux comprendre la game. Tu m'aurais dit à l'époque, 53 ans plus tard, je serais assis ici en train de parler de hockey. C'est un autre monde, mais effectivement, je me suis rangé derrière les Popov.
Et à un point tel où vous vous êtes lié d'amitié avec plusieurs d'entre eux, et vous mentionnez que vous travaillez actuellement sur la rédaction de vos souvenirs, de vos mémoires de ces amitiés qui ont été un peu inattendues, là.
Oui, parce que ça fait maintenant ma 30e année que je gravite autour du programme de hockey de Mortagne. Et puis, à chaque année, on m'invite, les coachs m'invitent à raconter cette histoire-là. Et je me suis aperçu que ça fascinait les jeunes, que sur secondaire 1, secondaire 5. Et au-delà du hockey, c'est une histoire incroyable de camaraderie, c'est une histoire incroyable de passion. C'était impossible d'infiltrer l'équipe soviétique. Et quand je leur raconte ça, à un moment donné, il y en a qui ne me croient pas encore, mais ça les fascine. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je vais mettre ça sur papier. Puis, pourquoi pas un jour Mais c'est à partir vraiment de comment est-ce que les jeunes réagissent, puis aussi ben, les adultes, parce que c'est vraiment une belle histoire.
Mais répondez donc à votre propre question. Comment on fait pour infiltrer l'équipe de hockey soviétique de l'époque?
Écoute, en 72, donc, la série du siècle se termine avec le but dramatique de M. Anderson, et puis bien travaillé derrière le filet par M. Cournoyer. Et puis, en 74, il y a eu une autre série contre la MH. Et puis là, en 76, c'est Coupe Canada, la première Coupe Canada. Et puis, moi, je suis maintenant rendu étudiant en éducation physique, option hockey à l'Université de Montréal. On a parlé de Claude Chaplot puis Georges Larivière la semaine dernière. J'étais donc un étudiant en hockey. J'ai 21 ans. Et puis là, ben, l'Université de Montréal est en haut de la côte, puis le forum est en bas de la côte sur Atwater. Puis là, je me suis dit, go, c'est le temps ou jamais. Puis j'avais mes billets pour aller au match. Mais j'ai su que les Soviétiques étaient à l'hôtel de quatre saisons. À l'époque, ça s'appelait comme ça, au coin de Sherbrooke puis Atwater. Et puis, j'ai fait comme « go ». Je suis rentré à l'hôtel. J'ai su qu'il était au 15e étage. Je suis monté au 15e étage. Les corridors étaient vides. Et puis,
vous avez cogné aux portes?
Là, tu fais quoi?
Êtes-vous sérieux?
Oui, oui. Fait que là, j'ai fait comme « go ». Puis le hasard de la vie ou la destinée, appelons ça comme on voudra, je cogne à une porte au hasard, puis c'est Vassiliev, un des plus grands capitaines, un de l'histoire de l'Union soviétique, puis deux du sport, un capitaine incroyable, et Tretiak, qui est son
co-chambreur.
Son co-chambreur.
Ben voyons donc.
Oh yes. Fait que là, ils me regardent, puis là, je fais comme « Salut! » Là, ils comprennent pas rien.
Ils comprennent rien parce que...
Moi, non, pas tellement, pas à l'époque.
Et puis, vous parlez pas russe non plus?
Non, pas en tout. C'est la communication internationale, là, non verbale, verbale, etc. Et c'est là, évidemment, que certaines personnes sont arrivées un peu en courant parce que faut comprendre qu'en 76, on est encore dans la guerre froide. Et puis là, c'est comme les Soviétiques sont tout seuls au 15e, alors que toutes les autres équipes sont plus relaxes à des niveaux plus bas dans l'hôtel. Et puis, j'ai été gentiment invité à quitter, disons-le comme ça.
Par des agents du KGB ou des...
Oui, de la GRC. Puis bon, c'était bien correct. Là, il fallait... Mais ils ne s'attendaient jamais qu'un gars soit là. Et puis, Vassiliev, il m'a fait comme comprendre que plus tard, j'ai compris que plus tard, il y avait un dîner d'équipe à 15h parce qu'il jouait le match le soir. Et puis, je me suis retrouvé pas loin de la salle à dîner. Et c'est là que l'ascenseur s'est ouvert. Puis là, il y a... toute l'équipe, puis moi je les connaissais tous parce que bon, je les suivais depuis 72, et puis là c'était des poignées de main, puis c'était des sourires, puis c'était des tapes sur l'épaule, puis ils m'ont pas invité à rentrer, mais en sortant chacun me donnait une banane, une bouteille d'eau, puis ils me tapaient sa tête en voulant dire « let's go, lâche pas ». Fait que, et là au match, ceux qui ont connu le vieux forum se souviennent qu'ils avaient rajouté des bancs bruns aux extrémités derrière les filets, et puis moi j'avais un billet là. Et tout seul, quand les joueurs embarquaient sur la glace, moi, je criais « Chaibou ». Chaibou qui veut dire « let's go ». Puis, ben, en fait, j'étais le seul.
Mais c'est le seul, ben oui. Ouais,
fait que je me souviens encore que les gars levaient la tête, faisaient comme « qu'est-ce qu'il fait là ». Mais à chaque fois qu'ils s'en allaient au forum pour pratiquer ou pour jouer, moi, j'avais eu l'horaire de Vassiliev. Donc, je partais de l'université, je quittais mes cours. Puis là, je disais aux proches « je m'en vais voir mes chums ». Puis là, finalement, ça s'est produit comme ça. J'ai été accepté. Je n'étais pas là pour être un groupie qui voulait des autographes, rien. Non, je voulais vraiment connaître des gens au travers d'un sport qui me fascinait, le hockey. Et puis, j'étais pour porter mon propre jugement sur quoi qu'on en dise, des gens d'un autre pays, d'un autre système. Et puis, c'était des gars extraordinaires. Et puis, ils m'ont laissé rentrer. Je me souviens encore, j'étais entre deux joueurs, puis je rentrais dans le vestiaire. Les gardiens du forum n'y voyaient que du feu. Je m'en excuse encore. Et j'étais dans le vestiaire, je passais le tape. Et j'avais du fun. Puis, j'étais au match. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est comme ça que je me suis infiltré. Et puis, ce qui a été le déclic officiel, malgré que Tikhonov, il me regardait toujours d'un air un peu bizarre.
Mais je pense que Tikhonov regardait tout le monde d'un air bizarre. Ouais, il était pas commode.
Ouais, une chance qu'il y avait Yurzinov, son adjoint, il était super cool. Puis, il montrait des affaires, lui, il était correct. Et vous irez voir, là, en tout cas, pour l'histoire, la petite histoire, c'est que les Beach Boys étaient au forum un soir, donc ils ne pouvaient pas s'entraîner. Et puis, il prenait l'autobus pour aller pratiquer à Ville-Saint-Laurent. Il y a peut-être des gens qui étaient là à l'époque qui s'en souviennent. Et puis, je les ai salués parce qu'il fallait que je remonte à l'université. Et puis là, l'autobus a fait 50-60 mètres, s'est arrêté. Puis là, Vassiliev a dit « Ah ouais, viens dedans. » Puis c'est là qu'en rentrant dans l'autobus, les gars, ils ont applaudi.
Hein?
Puis là, j'étais finalement « part of the boys ». Malgré Tikhonov, il était assis en avant, puis il bouillonnait. Mais j'étais accepté par les gars, fait que je me suis assis là.
Puis vous êtes allé pratiquer avec les joueurs?
En fait, je suis allé les accompagner. Puis là, j'étais sur le banc, puis là, je lançais les rondelles. J'étais rendu le trainer officiel.
Ben voyons donc.
Et puis là, ben de 76 en 77, 78, 79, 79, je suis allé à la Challenge Cup à New York. 17 438 personnes au Madison Square Garden. À l'époque, c'était le maximum.
Ça, c'était le match entre l'équipe de l'Union soviétique et les vedettes étoiles de la LNH.
Ouais, ouais,
puis ils
2-3.
Avaient planté.
Disons que c'était 1-1. Puis le dimanche soir, il y a eu un match... tout a bien été pour les Soviétiques, un match de 6-1, 6-0. Mais je peux vous dire qu'à chaque but des Soviétiques, je réagissais en dedans parce qu'il fallait pas qu'en plein Madison Square Garden, je démonte ma partisanerie et mon enthousiasme. Je ne suis pas sûr que je serais sorti de là avec tous mes morceaux. Mais bon, fait que j'ai descendu vite parce qu'il fallait que je prenne l'autobus parce que je travaillais le lendemain dans mon gymnase. Moi, j'étais un prof d'éducation physique. Et j'ai eu des salués. Et puis de 79, ensuite on s'est revu en 81 à Göteborg, en Suède, au championnat du monde, où M. Lafleur a participé. Et après ça, ça a été la Coupe Canada ici en 81, où ils ont emporté le match ultime. Et puis c'était la dernière fois que je voyais pas mal mes chums, parce que c'était la nouvelle garde qui arrivait en 81.
Puis ça, c'est la gang le Russian Five, là, les cinq Russes. Là, Krutov, Larionov, Makarov, puis ouais, Kazatanov, puis Fetisov en arrière. Là, ouais.
Fait que ça, c'était la nouvelle génération, c'était le nouvel environnement. On est rentré en 81, on est plus en 76. Ça change. Donc, mes vieux chums, un après l'autre, ben ils faisaient plus de club finalement. Fait que, mais j'ai eu la chance en 81 de saluer, je pensais une dernière fois, Vassiliev et Tretiak. Mais c'est là qu'en 87, il y a eu le retour des vétérans et puis j'ai pu aller jouer avec eux un match.
Ah ben c'est ça, vous avez joué, il me semblait aussi que vous aviez joué un match avec eux.
Ouais, ça a été, encore là, je pensais jamais quand les revoir. Et puis en 87, il y a eu Revive the Moment, Revivons le moment. Et encore là, il y avait encore des poussières de 72, 76. Et là, ils ont invité quelques vétérans soviétique, dont pas mal toutes mes chums, et une couple de vétérans de 72. Et je savais qu'ils arrivaient à l'aéroport de Dorval. Je m'étais mis beaucoup dans tout ça. On se développe des contacts quand on veut vraiment quelque chose. Et puis, je les ai accueillis à l'aéroport. Salut les boys, tata. Fait que là, j'ai su qu'ils s'entraînaient aux quatre glaces de Brossard. Et là, j'ai dit à Vassiliev, c'est tout de suite ou jamais. Fait qu'il a dit « OK, pas de problème ». Fait que là, je me suis retrouvé à Brossard.
Il vous a dit « Amenez votre équipement, puis on saute sur la glace ».
Ouais, parce qu'eux, ils se préparaient à jouer des matchs hors concours, évidemment. Là. Mais il dit « Je parle au coach », puis je dis « Tu parles au coach, c'est toi le boss ». Fait que, comme je te dis, Vassiliev, c'était un des grands.
Il est-tu encore en vie, Vassiliev?
Malheureusement, non. Avant que les problèmes surviennent en Russie, je m'étais fait un devoir parce que je sais où sa pierre tombale et dans quel cimetière, tout ça. Puis je m'étais toujours dit, je devais bien ça parce que ça a été un chum extraordinaire. Je devais bien ça d'aller me recueillir sur sa tombe. Mais dans le contexte actuel, il n'est pas question que j'aille là-bas. Mais je sais où c'est. Je sais où la pierre tombale. Et ce n'est qu'une question de temps, peut-être, pour que j'aille le saluer une dernière fois. Mais puis, c'est drôle parce qu'on a la même date de naissance. C'est des fois les hasards de la vie.
Ouais.
Fait qu'on, non, le grand Vassiliev nous a quittés, comme plusieurs autres. Présentement, je suis encore en contact avec numéro 3, Loutchenko.
Ouais.
Et puis, lui, il a rendu à 76, 77 ans maintenant. Et puis, le grand, j'ai son courriel. Fait qu'on communique ensemble et on parle du bon vieux temps.
Wow! Permettez-moi, M. Mouton, de faire une pause parce que je veux vous parler de l'impact que les Soviétiques ont eu sur le hockey et peut-être sur votre façon d'enseigner parce que moi, j'ai la chance de voir à l'œuvre à tous les jours. C'est un style de coaching un peu différent, très innovateur Et je vais faire le lien avec, avec votre, votre grand mentor en matière de hockey soviétique. On va aller à la pause. On est avec Jean-François Mouton, le coach des coachs du Québec, mais qui est aussi un passionné d'histoire. On prend une petite pause, on revient dans deux minutes. On poursuit notre entretien avec un des grands pédagogues du hockey au Québec, Jean-François Mouton, qui en est à la rédaction de ses mémoires, puisqu'il s'est lié d'amitié au fil du temps avec cette grande dynastie du hockey 70, du hockey soviétique des années 70. Et M. Mouton, quand on rentre dans votre bureau, là, ça glace 2, là, l'aréna à Boucherville, là, où est-ce qu'il fait froid, puis il fait sombre, puis on rentre dans le bureau, là, puis on se croirait justement en Union soviétique, puis il y a des livres partout, là, sans dire que c'est le bordel, là, c'est un chaos organisé.
Merci.
Et il y a une photo au-dessus de votre bibliothèque, puis c'est pas la photo du pape Jean-Paul II,
non.
C'est la photo d'Anatoly Tarasov, ouais, qui est le père fondateur du hockey soviétique, finalement.
Pas mal celui qui a installé les bases à partir de tout ce qu'il a pu, dans les années 50, ramasser de ce qui se passait dans le hockey. Parce qu'il faut comprendre qu'en Union soviétique, le bendy, ça joue sur glace, sur un terrain de soccer, vous irez voir.
C'est comme du hockey sur gazon, mais sur glace, finalement. On joue 11 contre 11.
Oui, tout à fait. Donc, le bandy, c'était pas mal le sport. Donc, c'était de passer du bandy au hockey, il y avait comme un pas à faire. Et Tarasov a fait ce grand pas pour le hockey. Et évidemment, Anatoly, avec ses idées, avec sa personnalité, avec sa passion, avec son amour pour ses joueurs, c'était quelqu'un d'inspirant. Tu sais, j'ai pas pu le connaître, donc je peux pas vous en parler personnellement, mais avec ce que j'ai compris, puis ce que j'ai lu, Anatoly, c'était vraiment quelqu'un qui avait son sport et ses joueurs à cœur.
Oui, puis c'était certainement un homme créatif, puisque il a littéralement développé le système de hockey soviétique de l'époque en se basant sur deux disciplines, notamment les échecs. On sait que les échecs étaient une discipline très populaire à l'époque en Union soviétique. Et les bolchoï, les grands balais soviétiques. Et ça prenait un peu d'imagination là, pour amener ça dans le monde du hockey.
Parce qu'en voyant un spectacle des ballets du Bolshoï, il est sorti et il a dit à sa femme, il dit, c'est tellement organisé, mais c'est tellement aussi, on voit pas tout cette organisation-là, tellement que c'est bon, fluide, etc. Je me souviens plus de ces mots exactement, mais ça l'avait impressionné de voir cette structure organisée, mais qui semblait pas, ça semblait improvisé, entre guillemets, et évidemment, telle action a tel impact, dont la notion des échecs. Et Anatoly, c'est ça, il a développé une approche où, évidemment, les cinq joueurs, on ne parlera pas du gardien de but, mais les cinq joueurs sur la patinoire, et c'est toujours cette philosophie-là que j'ai depuis, c'est pas des défenseurs et des attaquants, s'il y a des avants, il y a des défenseurs, des arrières.
Les arrières, c'est
et
ça.
Ces joueurs-là forment un tout, une unité. Et c'est pour ça qu'en 72, on a découvert vraiment l'implication des arrières. Tu sais, quand un joueur soviétique passait derrière le filet, paf, il y a un défenseur qui est rentré en deuxième vague ou, comme on dit chez nous, en backdoor. Et ça, d'impliquer les défenseurs, c'était pas nécessairement quelque chose qui était à la mode. Et ça, évidemment, cet aspect-là d'utiliser les défenseurs comme un quatrième attaquant, je dirais, ben ça, c'est sûr que ça contribuait à l'offensive et au contrôle de la rondelle.
Et moi, je vous croise au travail à tous les jours, puis je vois un petit peu d'Anatoly Tarasov dans vos façons d'enseigner. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu sais, je regarde, des fois, on fait des petits jeux, vous inventez des règlements au tennis qui n'existent pas pour qu'on se déplace un peu plus. On fait des fois, je me rappelle, pour nous, les entraîneurs, là, il faut amener le ballon d'une chaise à l'autre, mais il faut que ça touche à tout le monde. Puis là, trouver votre stratégie pour qu'il se retrouve le plus rapidement. Fait que vous êtes très, très créatif dans votre façon de faire aussi.
C'est certain que mon bac en éducation physique m'a aidé à comprendre et à préciser davantage les bases de l'apprentissage. Et quand on dit que le principal intéressant d'apprentissage, c'est l'apprenant lui-même, ben j'ai gardé ça en concept. Puis quand je fais des séances d'entraînement avec mon collègue, puis j'offre aux jeunes l'environnement le plus stimulant possible, ben ça fait partie de ça. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait avec la rondelle, qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation de, j'appelle ça un conflit, là, on est comme pris. Moi, j'aime toujours dire en anglais, « no play, make a play ». Il n'y a pas de jeu, mais il y a toujours un jeu. Puis c'est là qu'en développant des exercices ou des mises en situation où les joueurs ont des décisions à prendre, un peu le chaos organisé que vous parliez, ben ça leur permet de réagir vraiment à la situation qui leur est présentée. Et aux dernières nouvelles, les jeunes répondent très bien à ce type d'exercice. Puis on s'amuse beaucoup à... Des fois, j'en mets un peu plus là, en disant « ça vient de tel pays, ça vient de mes chums, parce que je leur raconte l'histoire. » Bon, je leur en mets un peu, là, mais quand même, c'est la bonne humeur, c'est le travail, mais c'est un apprentissage qu'ils comprennent qu'au travers le jeu, tout le monde a un travail à faire, puis on se tient entre nous autres.
Il y a quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie texte « Pourquoi M. Mouton n'est pas impliqué auprès de Hockey Québec? » Vous êtes impliqué auprès de Hockey Québec, puis pas à peu près, là.
Oui, bien, comme permanent, non, mais depuis 45 ans, je contribue à des dossiers, je contribue à de la formation. Cet été, c'était mon 45e niveau avancé haute performance. Et consécutif, j'en suis très fier parce que j'apprends des entraîneurs qui sont là, puis en même temps, je leur partage mes connaissances puis mes visions. Mais oui, avec Hockey Québec, on est intimement liés. Non pas comme permanent, mais comme porteur de dossier, évidemment.
J'ai une question qui vient de M. Stéphane Lebeau, que vous connaissez bien, ancien porte-couleur du Canadien. Et lui, il me dit, « Dis à M. Mouton que le hockey sense, le sens du jeu, ne s'enseigne pas. » Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous?
Ben, j'aimerais ça que Stéphane soit à côté de moi, parce que si c'est vraie parole, je suis prêt un peu, parce que lui, il a développé, parce que Stéphane, c'est un joueur très cérébral, très cognitif en termes de... Ben, vous l'avez vu jouer quand il était avec le Canadien, puis moi, je l'ai affronté comme entraîneur quand il était avec les Cataractes de Shawinigan, avec Denis Paul, c'était Patrice Lefebvre, c'était trois joueurs incroyables. Mais en tout cas, pour revenir à Stéphane, le sens du jeu, ça s'apprend. Le sens du jeu, ça se développe en autant, bien sûr, qu'on place les joueurs en situation où ils auront toujours des décisions à prendre en fonction de où ils sont sur la patinoire, en fonction de leur habileté, en fonction de leur rôle à jouer au moment même où la rondelle est en transition, en offensive ou en défensive. Mais je suis surpris parce qu'il a développé vraiment, Stéphane, un libellé sur les quatre rôles du joueur. Et les quatre rôles du joueur, tu les remplis en fonction de tes connaissances et de ta capacité. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est ses vraies paroles, il a peut-être voulu dire c'est tough à enseigner. Oui, c'est tough, mais à quelque part, j'ai vu des joueurs évoluer en prise de décision au cours des dernières années, c'est clair.
On va revenir sur votre passion pour le hockey soviétique, mais puisque vous parlez de ça, j'en parlais en manchette tout à l'heure, le Canadien vient d'offrir un contrat à Jaden Struble, un contrat qui ressemble un peu à celui de Harbert Jacky. On aura donc un choix à faire qui sera notre sixième, septième défenseur. On semble reprocher, par exemple, à un Jacky son manque de sens du jeu. Est-ce que rendu au niveau de la LNH, il est trop tard pour le développer ou ça se développe rendu là encore?
Il n'est jamais trop tard parce que à partir du moment où c'est à partir où les entraîneurs, qu'est-ce que tu attends d'un joueur? Donc, les attentes, puis on compare Screwball puis Jacky. Moi, je pense que si vous voulez jouer le jeu éventuellement, vous prenez une feuille puis vous mettez 6 à 7 critères qui détermine un défenseur efficace en situation de jeu. Et puis là, vous pouvez cocher Jacky Struble. Puis à la fin, parce que c'est ça, la sélection, à la fin, tu as un choix à faire en fonction de quelle case que le gars remplit plus que l'autre. Concernant le sens du jeu, ces gars-là, écoutez, M. Bertrand, ils sont 700 quelques joueurs à atteindre ce niveau-là. Là. Fait que c'est des joueurs qui ont un potentiel certain ou un certain potentiel. Fait qu'à partir de là, comment est-ce qu'on les encadre, comment est-ce qu'on les dirige, comment est-ce qu'on leur amène leur responsabilité dans la vision du jeu. Et je pense qu'avec M. Saint-Louis, la vision du jeu est importante, la prise de décision est importante. Est-ce que l'autre voit plus vite tel aspect? Peut-être. Mais moi, je dis toujours qu'un joueur Il a quel âge, Jacques? Il y a 22, 23. C'est un joueur atteint son plein potentiel au hockey à 29, 28, 29. Fait que, tu sais, Jacques et Schobel, ils ont encore du chemin à faire, mais clairement que ce gars-là, il peut continuer à s'améliorer. Il y a 2 ans, Jacques nous a démontré de belles choses. Il a fait des bons jeux. Qu'est-ce qui s'est passé entre là 2 ans et l'année passée? Ça, je ne suis pas entre les quatre murs du Canadien, mais à quelque part, il y a un potentiel, c'est certain. Donc, à partir du moment où il est encadré de telle façon, avec telles exigences, telles attentes, bien, les gens du Canadien, le coaching staff, seront satisfaits ou plus ou moins satisfaits selon les attentes qu'ils ont envers lui ou Strobel.
Il y a Sébastien sur la messagerie texte qui dit « Il est tellement bon, M. Mouton. J'ai eu la chance d'entraîner Elite sous sa supervision. Il vous salue, un dénommé Sébastien Buisson. » Je sais qu'il y a bien des gens qui vous connaissent parce que vous n'avez supervisé un paquet de coachs au Québec. Là.
Écoute, j'ai... À quelque part, quand j'aide un coach, j'aide un kid, ou 12 kids, ou 15 kids. Et je pense qu'on revient à secondaire 5, là. Je pense que j'étais destiné à ça. J'étais destiné à aimer le hockey, à faire aimer le hockey, et puis à contribuer le plus humblement possible à ce que les jeunes qui le pratiquent, garçons ou filles, peu importe le niveau, peu importe le volet qu'on parlait tantôt, c'est si je peux aider un coach qui peut aider 15 kids, c'est là que je me sens bien puis que je me sens utile à la société.
Ah, puis vous l'êtes, puis vous êtes un bon pédagogue, puis un grand pédagogue. Je reviens sur les Soviétiques. Est-ce que la façon d'enseigner le hockey vous rejoignait plus que la façon nord-américaine, ce qui a contribué à votre fascination?
Et c'est certain qu'avec mon cours de hockey à l'Université de Montréal, on apprenait les principes...
Canadiens?
Non, les principes du sport collectif. Fait qu'à partir de là, peu importe le sport collectif que tu fais, au hockey, c'est plus tough parce qu'on est en patin, un grand bâton, il y a du monde court après toi, là. Mais les principes du sport collectif, c'est immuable. Ça sera toujours... on a le puck, qu'est-ce qu'on fait avec? On le contrôle, on le fait progresser, on prend le centre. Bon, en tout cas, je ne ferai pas un cours de hockey. En défensive, on bloque le centre, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais... À partir du moment où il y a des principes. Fait que moi, je suis initié au principe du sport collectif du hockey. Fait que quand je jouais une game de soviétique, ben là, je reconnais les principes que j'apprends. Ça n'enlève rien au hockey canadien qu'il y avait à l'époque, parce que les gars, c'était du bon hockey. Bon, c'était-tu le temps de domper tout le temps le puck, le projeter dans le fond? Peut-être pas. Il y a des fois oui, il y a des fois non. Encore là, c'est une stratégie. Le jeu physique, moi, j'ai pas de problème avec le jeu physique. Moi, ce qui me dérange, c'est les cheap shots. Ce qui me dérange, c'est l'abus. Ce qui me dérange, c'est l'intimidation.
Et ça, c'était plus canadien que soviétique à l'époque.
Oui,
là.
Parce que...
Bobby Clark, là, puis oui. Le coup à cheville dans la mort.
Vous allez voir ça, la game 6, le match 6 de la série du siècle a basculé parce que là, Canada devait gagner les 3 dernières, le 6, le 7 et le 8. Puis Harlamov, il leur faisait mal, là. On va se le dire comme ça. Puis c'est pas un secret de Ponichinelle, là, mais John Ferguson, il a eu un meeting assez sérieux. Puis il a dit là, faut pas qu'Harlamov, il continue à nous faire mal de même. Puis ils se sont arrangés pour le laisser passer. Clark, il dit, je m'en occupe. Mais on était en 1972, puis en 1972, il pouvait laisser passer un gars, arriver derrière lui, puis fracasser la cheville à 3 places avec un coup de hache. Vous allez voir ça sur YouTube. Je fais pas de chauvinisme. Je fais juste que quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Mais en 1972, pas en 2025, et Dieu merci, de plus en plus les pros, il y en a de moins en moins de ces affaires-là, évidemment, parce qu'on veut du hockey. Hein, du hockey spectacle, c'est une chose. Le hockey mineur, c'est une autre chose. Mais quand la game de hockey en haut est jouée vite, puis est jouée avec les principes qu'on parlait tantôt, c'est un sport extraordinaire à regarder.
Et est-ce que les vestiges du hockey soviétique existent encore? Est-ce que, par exemple, je sais que vous êtes chum avec Benoît Groulx qui coach en KHL, est-ce que la possession de rondelles est encore au cœur de leur game? J'écoutais le jeune Mishkov dire Je sais pas si vous avez vu l'entrevue avec Mishkov récemment des Flyers qui dit, moi quand je suis arrivé ici, il me demandait de dégager la rondelle, de domper le puck. Il dit, je comprenais pas, il me semble, c'est tellement fatigant de courir après la rondelle, pourquoi ne pas la garder?
Oui, ben c'est un peu comme je disais tantôt, tu sais, je pense qu'il y a des moments où on peut placer la rondelle parce qu'il y a une intention de placer le puck. Et à partir de là, c'est puis il faudrait que je valide encore avec Benoît, puis avec Bob qui retourne là-bas. Puis avec Louis que vous avez reçu qui s'en va avec Homs, puis Guy Boucher, il faudrait que je valide, mais je pense que oui, effectivement, il y a encore cette espèce de contrôle de rondelle, de ne pas la, comment dire, la perdre inutilement avec des jeux où le pourcentage de réussite est tellement mince que ça vaut pas la peine de l'essayer. Moi, je pense que oui, mais on est en 2025, tout le monde a teinté tout le monde. Mais oui, je dirais à brûle pour point comme ça qu'il y a sûrement oui, des principes qui sont encore aujourd'hui appliqués.
En tout cas, on le voit dans les habiletés de Demidov, là, même si l'échantillon a été très court, là, on voit que le maniement de la rondelle est un de ses atouts.
Il y a le côté technique, mais j'ai pas vu encore Demidov. J'ai hâte de le voir vraiment sur une saison, jusqu'à quel point il va repérer ses partenaires, jusqu'à quel point il va repérer l'espace libre, jusqu'à quel point il va garder la rondelle pour attirer un joueur, le donner à son chum. C'est un sport collectif et chacun d'entre eux est au service de l'équipe.
Dites-moi, vos mémoires, c'est pour quand? Est-ce qu'un livre va voir le jour un jour? Ou...
Écoutez, c'est pas facile. Ma fille Véronica, elle étudie en histoire, puis elle me dit toujours, fais, écris, rappelle ces beaux moments que tu as vécu avec ces gars-là. Après ça, on s'occupera des dates. Parce qu'à un moment donné, je me suis mis à valider des dates, mais ça marche pas. Fait que j'ai pris son idée et présentement, ça me fait tellement quelque chose quand j'écris ça puis je me revois avec cette aventure incroyable-là. Mais vous donner une date, je peux pas. Mais c'est clair que je vais le terminer pour que peu importe qui voudra pourra le lire.
Ben écoute, je pense qu'on vient de vous trouver des lecteurs, M. Mouton. Je regarde sur la messagerie texte. Carl de Mirabel qui dit « Je ne connaissais pas M. Mouton, mais son histoire est donc bien intéressante. Wow, super enrichissant. J'ai ici Christian. Comment expliquer? La question est bonne. Christian dit « Comment expliquer autant de coachs québécois en Russie si le hockey n'est pas le même? » Ça, c'est une bonne question.
En fait, le hockey n'est pas le même. Il y a des différences, comme on a expliqué depuis tantôt, mais à quelque part, puis ça, c'était une de vos questions la semaine passée, des bons coachs, là, on en a au Québec, là, on en a formé, puis je les respecte là-dedans, ils ont fait tout leur cheminement, mais en bout de ligne, les entraîneurs qui sont là sont encore plus en mesure de vous le dire que moi, mais gérer une équipe, gérer l'offensive, la défensive, les situations spéciales, power play, piqué, etc., le jeu de transition, il est pas mal universel. Mais je pense que ces coachs-là vont s'adapter ou doivent s'adapter, ils vous le diront là, plus que moi, vraiment à les habitudes de travail, à l'environnement, à la vision. Ça, c'est une habileté qu'il va falloir qu'ils développent rapidement. Puis je pense que c'est Louis qui vous disait qu'il commence à apprendre un peu quelques mots russes, puis je trouvais ça intéressant quand il vous disait, par respect pour les gens, j'ai fait la même chose, je suis allé coacher l'équipe d'Italie, et avant de partir, j'ai appris l'italien un peu, je baragouinais, mais oui, effectivement, c'est pas entre guillemets la même game, mais c'est pas mal la même game.
L'impression qu'on pourrait faire 2 heures de radio avec M. Mouton. Vous parlez de l'Italie, vous avez coaché au Japon aussi, vous avez fait le tour du jardin pas mal, là.
Ben, partout il y avait du hockey, puis qu'on m'invitait à aller faire un tour pour partager ma vision, puis aussi d'apprendre de la leur. C'était avec beaucoup de plaisir que je me suis promené, oui, aux quatre coins de la planète.
Là, vous entamez bientôt votre, je veux pas vous faire vieillir, là, mais votre combientième saison comme entraîneur, là?
Ma 50e, j'ai commencé à 20 ans, donc ma 50e.
C'est votre 50e cette année?
Oui, oui, oui.
Ben voyons donc.
Si mes patins le veulent.
Ben je pense que, en tout cas, vos jeunes puis vos collègues comme moi le veulent.
Oui, oui, ben en tout cas, on a encore quelques semaines puis on repasse ça à
wow! Ben, M. Mouton, je le savais pas. Vous venez de me l'apprendre.
Ouais, moi aussi, je viens de me l'apprendre.
Là, ben là, on va se cotiser pour une montre en or, M. Mouton, là, un crayon Mont-Blanc, quelque chose.
Un beau bâton en or, là, comme il donne après 1000 matchs.
Ouais, wow. Ben, en tout cas, je peux vous dire une chose, on va le souligner
avec plaisir,
au programme. La 50e saison de M. Mouton dans le monde du coaching.
Ouais.
Merci d'être venu faire votre tour en studio.
C'est la moindre des choses, merci, puis salutations à vos auditeurs.
Je pense que les gens ont apprécié. Un gros merci, M. Mouton. C'est un privilège de vous côtoyer au quotidien.
Merci beaucoup.